Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Je vous souhaite à nouveau la meilleure année possible. Parmi vos résolutions, peut-être la volonté de désencombrer votre intérieur, faire le vide dans vos placards, armoires, étagères, bibliothèques, caves, greniers, commodes, avec le dessein de vous séparer de l'inutile, du superflu, pour ne conserver que l'essentiel, le nécessaire, par souci écologique, pour aller mieux, par philosophie minimaliste, pour se sentir mieux dans un intérieur moins surchargé. Mais comment y parvenir quand une petite voix, votre Jiminy Cricket, vous susurre à l'oreille que tous ces objets, ces livres, ces meubles que vous vous apprêtez à bazarder pourraient peut-être un jour servir? Comment amorcer le déclic? Par où commencer? Quelle est la meilleure méthode pour trier, désencombrer, ranger sa maison ou son appartement? Quels sont les véritables bienfaits psychologiques d'un tel désencombrement matériel? Bref, ranger rend-il vraiment heureux? Pour nous éclairer ce matin, le psychologue Stéphane Ruzinec, la coach en rangement Elvira Petit et Arnaud Gonzague, journaliste à l'Obs, notre complice ce matin. Dites-nous pourquoi désencombrer vous fait du bien. Racontez-nous également pourquoi vous avez du mal à vous débarrasser de vos objets superflus. Standard ouvert au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Vers 11h-25, vous retrouverez la chronique Passons Genre de Julia Foyce. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bonjour Elvira Petit.
Bonjour.
Vous êtes coach en rangement et vous avez publié chez Vigo « Le rangement, c'est maintenant la méthode pour trier, désencombrer et ranger efficacement son intérieur ». Bonjour Stéphane Ruzinec.
Bonjour.
Vous êtes professeur en psychologie clinique à l'Université Lille-Nord de France. Bonjour Arnaud Gonzague.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste à l'Obs et vous publiez dans le numéro qui paraît aujourd'hui « Se débarrasser de l'inutile ». Alors Elvira Petit, dans votre vie professionnelle, vous êtes confrontée à des intérieurs qui débordent pour des raisons très diverses.
Absolument. Donc, excusez-moi, je suis un petit peu engouée. Donc, on fait appel à mes services pour pouvoir se débarrasser de ces affaires et de faire un tri qui soit cohérent, respectueux et bienveillant.
Le rangement, ça s'improvise pas. Il faut de la méthode.
Il y a une vraie méthode, effectivement, parce que d'abord, il faut tout sortir. Pour ranger, il faut déranger. Excusez-moi. De manière à faire l'inventaire de ses possessions. Et les gens se rendent compte qu'ils possèdent beaucoup trop de choses, donc qu'il est nécessaire après de faire un vrai tri, de manière à ne conserver que ce qui est utile, fonctionnel, et les choses que l'on aime.
Que pensez-vous des méthodes de rangement très en vogue, importées par la japonaise Marie Kondo? La méthode KonMari, hein, c'est son nom, certes très efficace, mais que vous jugez assez abrupte, peu réaliste et pas forcément adaptée au style de vie occidental.
Absolument, parce que pour être sur le terrain tous les jours, je me rends compte qu'il faut être bienveillant et il ne faut absolument pas brusquer les gens. C'est déjà une intrusion dans leur vie personnelle, dans leurs affaires personnelles. Donc moi, je ne suis pas là pour jeter et faire tout jeter aux personnes. Je suis là pour les accompagner et les aider à se poser la question de savoir est-ce que je garde, est-ce que je conserve, avec bienveillance, mais aussi avec accompagnement.
Et pour le dire vite, en deux mots, Marie Kondo préconise de se débarrasser des objets qui ne nous procurent pas de joie.
Alors, moi j'ai un exemple dans mon livre, mon mixeur à légumes ne me procure aucune joie, mais j'en ai besoin pour faire ma soupe. Donc je pense qu'il faut un petit peu relativiser. C'est très bien dans le côté on y va, on s'y met, agressif, etc. Mais c'est pas comme ça, je pense qu'il faut aborder les choses. Il faut être beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus calme et beaucoup moins radical. Parce qu'une fois que c'est jeté, c'est jeté. Par ailleurs, en France, en Europe, on ne jette pas. On essaye de recycler, de faire profiter des personnes qui sont dans le besoin, de faire réparer. On ne met pas tout à la poubelle.
Dans votre activité de coach en rangement, vous constatez de visu que nous surconsommons. Vos clients sont souvent effarés hein, de la quantité d'objets qu'ils possèdent.
Absolument, et c'est bien pour ça que il faut vraiment faire l'inventaire et tout sortir. Pour se rendre compte qu'on a, par exemple, 50 jeans et qu'on va mettre toujours les 5 premiers sur la pile. Voilà. Il faut appliquer le 1 qui entre, 1 qui sort.
Arnaud Gonzague, dans les pays occidentaux, nos lieux de vie contiennent 10 fois trop d'objets, de vêtements, de contenants fourre-tout. Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé à accumuler autant d'objets?
Ah bah c'est le fruit des 30 glorieuses, quoi, pour le dire très vite. C'est-à-dire d'une société qui a fait de la consommation et de l'accumulation plus que une marque sociale, c'est presque une marque identitaire, c'est-à-dire que il y a quelque chose de l'ordre de la pulsion d'accumulation chez l'humain, ça c'est dans notre cerveau, hein, ça nous permet de survivre. C'est un rempart contre la mort, la famine, le froid, voilà. Donc au départ, c'est quelque chose qui relève de l'évolution. Et puis, bah, les publicitaires, le marketing naissant dans les années 30-40 a compris que c'était un bouton qu'on pouvait titiller dans notre cerveau et a fini par dire « Regardez, vous existez à travers les objets ». C'est ce qu'on appelle la théorie du soi étendu, c'est-à-dire que à travers les objets que vous accumulez chez vous, vous donnez une certaine image de vous-même aux autres, mais aussi à vous-même.
Il a fallu des savoir-faire spécifiques pour en arriver là.
Ah, c'est le génie du marketing, c'est d'appuyer sur les bons boutons, évidemment. Nous, consommateurs, nous sommes en permanence, en tout cas dans les années contemporaines, c'était moins vrai probablement dans les années des Trente Glorieuses, mais nous sommes en permanence dans une espèce de combat entre notre conscience qui nous dit on a trop de choses, on a tous le sentiment qu'on est dans une surabondance absurde, et nos pulsions de dire oui mais quand même ça c'est pas mal, cette robe elle est pas mal, cette voiture quand même par rapport au voisin, qu'est-ce que ça pourrait être, donc c'est très idiot. Et en même temps ce qu'on essaie de montrer dans le dossier de l'Obs, c'est que c'est quelque chose aussi qui est très naturel, quoi. C'est-à-dire, il faut pas culpabiliser, c'est pas une question de morale, c'est une question d'abord de fonctionnement biochimique de notre cerveau. Après, rien nous empêche de reprendre la main et que la conscience, l'intelligence reprenne la main sur la pulsion.
Stéphane Ruzinec, que vous êtes d'accord avec ça, c'est une question de fonction biochimique de notre cerveau qui nous pousse à accumuler à ce point ?
Oui, je pense qu'il y a une grande vérité là-dedans. C'est en gros, cette fonction viendrait aussi de quelque chose qui est l'anxiété. Pour gérer notre anxiété, depuis toujours, parce que l'anxiété, c'est l'anticipation de ce qui peut arriver et du malheur qui peut m'arriver, si j'ai des objets, je gère. Je garde quelque chose au cas où il se passe quelque chose un jour, et ce stylo, je vais pas le jeter parce que même s'il fonctionne pas très bien, au cas où les autres ne fonctionnent pas, je vais quand même le garder. Et on a beaucoup de troubles psychiatriques qui tiennent de cette accumulation et de ce besoin d'accumulation. Donc c'est quelque part en nous quelque chose de très important.
Si je vous comprends bien, les montagnes d'objets inutiles qui nous entourent, c'est un moyen de remplir une peur du vide.
Alors, vide existentielle. J'aurais pas dit une peur du vide, parce que c'est pas trop le vide qui va nous faire peur dans ces cas-là, mais une peur de ce qui peut arriver.
Vous le constatez, ça, Elvira Petit, dans votre pratique de coaching, cette peur du vide existentiel, cette angoisse, cette anxiété, et on remplit cette anxiété par une accumulation d'objets.
Oui, donc effectivement, j'ai un exemple très frappant. C'est par exemple quand on trie et qu'on fait de la place. La personne va me dire, mais qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Je dis, ben justement, on va rien mettre. On vient de trier, il faut que votre intérieur respire. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont rassurés par l'objet. Mais comme je dis, et comme vous le disiez, monsieur, posséder, c'est pas exister. Exister, c'est être. Et c'est aussi mon rôle, dans mon travail tous les jours, d'expliquer aux gens que c'est pas parce qu'ils auront beaucoup de choses qu'ils seront plus importants, qu'ils seront plus socialement intégrés, mais simplement garder ce dont ils ont vraiment besoin.
Stéphane Ruzinec.
Oui.
Non, mais est-ce que ça, justement, cette peur du vide qui peut toucher certaines des personnes coachées par Elvira Petit, comment on l'explique cette peur au fond?
Mais comme je dis, enfin, c'est la peur, c'est l'anxiété inhérente qui existe chez nous tous, et se prémunir de ce que peut apporter l'avenir est très important. Et comme on ne sait pas ce qu'est l'avenir, autant garder les choses, elles vont peut-être pouvoir servir.
Il y a aussi une relation au passé. C'est-à-dire, ce qui est intéressant quand on a un âge certain et qu'on commence à aller vouloir désencombrer son logis, c'est qu'on voit tout ce qu'on a accumulé au cours de sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on, déjà, quand on est dans cette démarche et qu'on suppose qu'il y a quelque chose qui nécessite un allègement dans tout ça, et que, en fait, on se rend compte que, par exemple, on n'aime plus le masque africain, mais que, bah oui, mais c'était un super safari, c'était il y a 20 ans, 25 ans. En fait, quel sens ça, parce que c'est du passé. On n'aime plus, je sais pas, cette corbeille avec des choses très moches dedans, mais c'est une tante, la tante machin qui nous l'a donné. Voilà, donc on voit aussi à quoi on est rattaché. Moi, il y a effectivement une part d'anxiété par rapport à l'avenir, et Dieu sait que l'avenir est anxiogène par les temps qui courent, mais il y a aussi un lien au passé. Ça nous oblige à choisir. En fait, moi je crois que cette histoire de peur du vide, c'est pas tellement la peur du vide, c'est la peur de choisir. C'est plus facile d'être protégé par un bric-à-brac. C'est le syndrome Gaston Lagaffe, vous êtes entouré, c'est très rassurant, c'est un cocon aussi le bric-à-brac. Ça vous oblige à ne pas choisir qui vous êtes, à ne pas choisir ce que vous voulez donner de vous-même.
Vous êtes d'accord avec cette peur de choisir, Stéphane Ruzinec?
Ah, mais la peur de choisir, c'est quelque chose d'affreux chez nous tous. Savoir faire un choix, c'est c'est quelque chose de très difficile puisque chaque choix entraîne, quoi qu'il arrive, un sacrifice.
Une perte.
Donc, et à chaque fois qu'on fait un choix, on a la perte, on a ce sacrifice qui est fait. Donc, c'est quelque chose qui, chez l'homme, est très difficile à faire.
Et lui, Rapetit ?
Alors, effectivement, moi, j'ai constaté que les gens n'osent pas se débarrasser, par exemple, du vieux vase de la mamie qui est décédée. Ébréchée. Et je leur dis, mais en fait, c'est pas votre mamie que vous allez mettre à la poubelle. C'est juste un vieux vase qui n'a plus de sens. Votre mamie, elle est dans votre cœur. Mmh. Voilà. Et ça, c'est vraiment un travail. Il faut vraiment les aider à comprendre qu'il ne faut pas qu'ils culpabilisent. Et le bénéfice d'un tri, d'un rangement et d'une maison qui respire est vraiment réel. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit « Vous devriez être remboursé par la Sécu, parce que ça fait du bien. »
Allez, dites-nous si le fait de vous désencombrer vous a fait du bien. Racontez-nous également pourquoi vous avez du mal à vous débarrasser du superflu. Standard ouvert au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Vous Fasse. Alexia Rivière, Nicolas Beauve et Julia Macarès m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Claire Destacan.
S'arrêter. Si l'on nageait sans respirer, aurons-nous de l'air cet été? Tout le monde cherche à s'échapper.
Gaëtan Roussel interprétait Help Myself.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h20, comment se débarrasser du superflu? C'est notre thème ce matin avec la complicité de l'Obs, avec la coach en rangement Edvira Petit, le psychologue Stéphane Ruzinec et le journaliste Arnaud Gonzague.
Au départ, le minimalisme est une philosophie. Il est devenu une tendance. Certains en ont même fait un business. Dans le nord de Paris, l'heure est au rangement chez Amandine. Elle a fait appel à une coach pour trier sa garde-robe.
Je vais pas avoir suffisamment de recul pour me dire bah oui, ça sert à rien de le garder, je vais tout remettre dans mon dressing. Et du coup, bah, ça m'effraie de m'attaquer à ce pan de mur qui déborde.
Émilie va passer 3 heures à l'aider à trier ses vêtements.
15, 16, 43 débardeurs.
14 robes.
T'as 175 pièces dans ta garde-robe. Faudrait qu'on arrive à la fin de ce tri sous la barre des 60.
Tout ça pour 250 euros la séance. Une activité lucrative puisqu'Émilie effectue entre 2 et 3 coachings par semaine.
Extrait de l'émission Bonsoir, diffusé sur Canal+. Elvira Petit, ça coûte cher de faire appel à vos services ?
Alors, il y a tous les
Est-ce que c'est réservé aux privilégiés ?
Pas du tout. Alors, en fait, moi, je ne me permettrai pas, excusez-moi, de...
On est bienveillant avec votre voix défaillante ce matin.
Je suis désolée. C'est pas du tout ma voix habituelle. En fait, nous sommes plusieurs dizaines à être installés et chacune applique le tarif qu'elle souhaite. Donc je ne me permettrai pas de donner le tarif de mes collègues. Moi, je me suis positionnée sur un tarif qui est quand même un tarif non négligeable, mais accessible, de manière à pouvoir toucher tout le monde. Parce qu'il n'y a pas que les gens aisés qui ont besoin d'aide. Et j'ai beaucoup d'instituteurs, institutrices, infirmières, des gens comme moi.
Christine se pose la question suivante, se débarrasser du superflu, oui, mais il faut absolument se préoccuper du destin des déchets, Elvira Petit. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets, de tous ces objets encombrants? Il y a une question écologique aussi à la clé, Arnaud Gonzague.
Oui, absolument, c'est ce que rappelle la philosophe Jeanne Guin dans nos pages, c'est qu'effectivement, une fois qu'on a réussi à se retrouver, à se désencombrer, c'est très bien, mais il faut pas oublier qu'après, ça fait du déchet. Il faut pas que ce soit non plus... On est trop bonne conscience à ça. Mais moi, ce que je crois, c'est quand même qu'une fois qu'on interroge son propre besoin, ses propres désirs, on arrive très vite à se dire, mais est-ce que j'ai tout le temps envie d'acheter du neuf? Est-ce que finalement, acheter de la seconde main, acheter du réparé, faire moi-même, voire produire moi-même les choses, est-ce que ça serait pas plus intéressant aussi? Moi, je crois pas qu'il faille opposer non plus. Il y a toujours un procès un peu en boboïtude en disant, ah, c'est un truc de riche, vous balancez. Donc, je pense que c'est pas vrai pour plusieurs raisons. La première, c'est que si vous allez en France, en tout cas, dans une famille modeste, vous allez regarder dans les placards et dans les tiroirs, ils sont très encombrés aussi. Je pense que c'est pas du tout l'apanage des gens les plus aisés. On est tous très encombré. Et en plus, secondo, je pense qu'on est à une époque où ce trop-plein est ressenti par tout le monde. Je pense que ce trop-plein est ressenti par tout le monde et on nous a souvent dit, nous, à l'Obs, là, quand on a fait ce dossier, ah, mais vous voyez, d'un côté, il y a les gilets jaunes qui demandent à avoir plus. Moi, je pense que résumer le mouvement des gilets jaunes à on veut plus de consommation, c'est très méprisant pour les gilets jaunes. Je pense qu'il y a une quête de sens bien plus profonde que ça derrière leur mouvement.
J'aimerais qu'on accueille Rémi Houdguiry. Bonjour Rémi.
Bonjour,
vous êtes directeur adjoint de Sociovision et vous avez réalisé une étude pour le compte de l'ameublement français, une étude sur l'influence du rangement sur le bien-être des Français, étude réalisée sur un échantillon représentatif de 1514 personnes âgées de 18 à 70 ans. Il s'agit d'entretiens ethnographiques dans différents logements, appartements, petites et grandes maisons. Pourquoi avez-vous effectué cette étude, Rémi Houdguiry ?
Eh bien, le constat qu'on fait, c'est ce que vient de dire votre invité, c'est qu'aujourd'hui en France, une grande partie de la population se sent encombrée d'objets. 61% des gens qui ont répondu à notre enquête nous disent « il y a trop d'objets chez moi ». Et c'est un phénomène intéressant parce que ça indique une mutation de notre société. Il y a encore quelques années, disposer de beaucoup d'objets, c'était à la fois rassurant et c'était une façon de participer au grand rêve de la consommation. C'était au moment de l'âge d'or de la consommation. Aujourd'hui, les gens se retrouvent avec énormément de biens chez eux. Ils n'ont pas nécessairement les espaces de rangement ou les surfaces disponibles pour les ranger et les accueillir, et ils s'en sentent encombrés. Comme le contexte général social est assez difficile par ailleurs, ils se trouvent un peu dans une contradiction qui est la suivante. D'un côté, chez eux, c'est là où ils voudraient enfin pouvoir profiter ce qu'on appelle la tendance cocooning de leur bien-être, et en même temps, ils se retrouvent saturés d'objets. Et donc, il y a aujourd'hui un phénomène important dans nos sociétés, c'est qu'il y a trop d'objets, et ça devient un problème qui ne concerne pas une petite minorité, mais une grande partie de la population.
La conséquence de ce surplus d'objets dans nos intérieurs, c'est qu'on se sent de plus en plus à l'étroit et qu'on a l'impression de manquer de place.
Exactement, on se sent accablé. Il y a véritablement. Alors, on a testé cette idée. Alors, c'est vrai que le succès d'un livre comme La magie du rangement de Marie Kondo est en soi un symptôme. Que dit Marie Kondo ? Elle dit qu'en triant, en jetant, on va se sentir mieux. Donc, il y a cette idée de cette hypothèse que le bonheur viendrait du rangement. Bon, on a testé cette hypothèse et on peut dire effectivement que ranger, épurer, se débarrasser de choses a une contribution directe sur le bonheur des gens aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'être léger et surtout d'être en accord avec soi-même. Et très souvent, le fait d'avoir entassé au fil des années pour des raisons XY, il y a aussi des raisons sentimentales des objets, nous empêche véritablement de nous retrouver en accord avec nous-mêmes.
Stéphane Ruzinec, dans cette étude, plus d'un tiers des personnes interrogées affirment que l'encombrement pèse sur leur morale.
Oui, enfin, c'est pas très étonnant. Quand on a beaucoup de choses chez soi, ça va effectivement un petit peu nous embêter, peser sur notre morale. Mais c'est un autre phénomène en fait qui peut y avoir derrière aussi, c'est que l'accumulation vient aussi du fait de ne pas ranger et de ne pas terminer des tâches et de regarder, de pouvoir se dire tiens c'est là, je devrais le bouger mais je le bouge pas. Et une des choses qui contribue énormément au bien-être, qu'on appelle l'activation comportementale, c'est justement faire une tâche qui va avoir un but, qui va avoir une fin, et avec laquelle on va pouvoir se renforcer une fois qu'on l'a faite. Et quand on propose à des patients qui souffrent de dépression ou d'autres choses, de l'activation comportementale, on leur propose souvent, écoutez, faites du tri chez vous, faites le ménage, ou allez sortir, il y a plein d'autres activités, faites du sport. Mais on a cette idée de, faites une tâche qui va être réalisée, qui va se terminer, où il y aura un but, et quand elle sera terminée, vous verrez ce que vous avez fait.
Élise, bonjour Élise.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Alors vous attendez un déclic depuis des années pour désencombrer votre appartement parisien.
Mon petit appartement parisien, comme vous pouvez imaginer, surtout que maintenant on est deux dans 20 mètres carrés, donc forcément on cherche de la place, et ça fait des années que j'essaye plusieurs stratégies. On m'a offert le bouquin de Marie Kondo, alors à part rouler mes vêtements comme elle le préconise, ce qui est une bonne idée, moi mon problème c'est pas les vêtements, c'est les papiers, les journaux, il y en a partout. J'arrive très peu à me débarrasser de tout ça parce que justement ça, pour faire écho à ce qui a été dit en début d'émission, ça évoque des choses passées dont j'arrive pas à me défaire. J'ai peur d'oublier, j'ai peur de me sentir vraiment vide à l'intérieur. Enfin déjà que j'ai un sentiment de vide très régulièrement en moi, j'ai l'impression que je me sentirais vide si on m'arrachait tout ça, alors que je sais que d'un autre côté ça me ferait du bien, je respirerais mieux. Enfin voilà, j'ai complètement analysé le truc depuis des années. Je sais ce que ça cache psychologiquement. Et pour le coup, alors pour chez moi, c'est pas le bordel à proprement parler, mais c'est encombré. Il y a des tas de trucs partout. Chaque chose a sa place. Il y a le tas de vêtements, le tas de papiers, le tas de trucs. Mais j'ai essayé donc Marie Kondo. J'ai essayé. Enfin, mon entourage me propose de l'aide, mais c'est psychologiquement, je peux pas. C'est l'angoisse. J'ai essayé de provoquer les choses d'un coup, c'est-à-dire de mettre tout par terre de façon à ne carrément plus pouvoir circuler chez moi et provoquer le déclic de je craque et je pète un plomb. Et je fous tout en l'air, mais ça ne marche pas. J'ai essayé d'y aller progressivement, ça ne marche pas. C'est vrai que c'est une certaine angoisse, et quand bien même on a compris pourquoi on fonctionnait comme ça, trouver la solution, c'est pas forcément évident, quoi.
Notre professeur de psychologie clinique, Stéphane Ruzinec, a pris des notes pendant que vous parliez.
Oui, c'était juste pour revenir sur ce que je disais, qu'on entend ici, c'est difficile, surtout dans un petit espace comme ça, on va accumuler, et on sent, je me notais juste que, on sent que ça fait du bien de se dire, tiens, à un moment, je vais ranger. Et qu'effectivement, ça participe à notre bien-être aussi, parce que quand on voit le bordel qu'on arrive à foutre autour de nous, généralement, s'en sortir de cette façon-là, et pouvoir s'arrêter à un moment et se dire « je l'ai fait », c'est quelque chose de très important, mais pour tout le monde.
Rémi Hudguiry.
Oui, je voudrais confirmer quelque chose que l'étude a montré, c'est que près de la moitié des gens disent qu'ils ont besoin de ranger, mais la même proportion dit qu'elle recule en permanence le moment de le faire. Donc il y a effectivement un bienfait psychologique dans l'idée de se dire qu'on va ranger, donc on va organiser mieux son logement, mais en réalité, très peu de gens s'y mettent. Alors, pour des tas de raisons, on a eu le témoignage en direct. Souvent aussi, quand même, ce qu'on dit les gens qu'on a interrogés, c'est qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc ils reculent en permanence le moment, et donc ça aggrave ce phénomène d'accablement et de saturation d'objets.
Arlo Gonzague.
Oui, moi j'y vois le témoignage d'Élise, je le trouve intéressant parce que j'ai l'impression qu'elle parle de notre relation même aux questions environnementales plus générales, c'est-à-dire qu'on sait tous qu'il faut y passer, on sait tous qu'il va falloir arrêter de manger autant de viande, qu'il va falloir arrêter de consommer autant de plastique, qu'il va falloir privilégier des transports plus vertueux, etc., etc. Et on est tous absolument conscients qu'il faut le faire, et qui le fait en réalité, et à quelle vitesse, et ça provoque une espèce de dilemme dont on sent bien dans son témoignage qu'il est douloureux à vivre.
Et lui dira petit un conseil peut-être à Élise, qui attend le déclic.
Oui, alors déjà, elle le fera quand elle sera prête. Ça sert à rien de se mettre la pression, parce que c'est une démarche qui est quand même très difficile. Moi, ce que je vais conseiller à Élise, c'est de commencer par des choses faciles et de pas mettre la barre trop haut. Alors, il y a quelque chose qui est très facile à faire. Les gens me détestent le faire, mais c'est très facile. Ce sont les papiers administratifs, parce qu'il n'y a aucun affect sur un relevé de compte.
Oh, moi, j'ai de l'affect pour mon avis d'imposition.
Il n'y a aucun affect sur un relevé de compte, sur une quittance de loyer, etc. Donc, vous avez à disposition sur Internet une liste avec les délais de garde de vos documents. Par exemple, un relevé de compte, maintenant, c'est 5 ans. Donc, vous travaillez tranquillement. Vous prenez une première pile, votre liste, et vous commencez à enlever tous les documents qui n'ont plus lieu d'être et qui ne sont pas à conserver. Voilà. Ou alors, vous travaillez sur votre salle de bain. Il n'y a pas énormément d'affect sur des échantillons de parfums ou de crèmes qu'on a pris à l'hôtel il y a 5 ans. De toute façon, ils sont périmés. Et là, malheureusement, il faut les jeter à la poubelle.
Merci beaucoup, Élise, pour votre témoignage. Bienvenue, Marité.
Oui, bonjour. Bonjour, Ali. Bonjour à toute l'équipe. Tous mes vœux.
À vous aussi, chère Marité. Alors vous êtes plutôt une jeteuse. Vous décrivez
oui, moi,
comme
je jette,
cela.
Je n'arrive pas à m'encombrer. Donc, quelquefois, je regrette. Mais je jette au fur et à mesure. J'ai horreur des objets. Mes amis le savent, ne m'offrent pas d'objets parce que je ne sais pas quoi en faire. Je suis handicapée de l'objet. Voilà. Je ne comprends pas les magasins Casa, avec des tas de trucs dedans. Je ressors, j'ai rien acheté parce que je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire? Voilà. Déjà, là, je vois mon sapin, je me dis, bon, je vais bientôt le jeter parce que ça prend de la place. Noël est passé, c'est fini, j'ai des épines partout. Voilà.
Qu'est-ce que vous faites des objets que vous ne conservez pas, Marité?
Alors, malheureusement, quelquefois, je les casse. Ça peut arriver. Ou alors je les donne, mais je n'achète pas très souvent des vêtements. Ou alors ils sont beaux et je les garde à ce moment-là, parce que je me dis je les remettrai. Ce qui est le cas souvent, parce que la mode passe et je les remets. Et puis ce que je n'aime pas, je l'apporte chez Emmaüs. Je donne les vêtements à la Croix-Rouge. Voilà tout ce que je peux me débarrasser. Je le donne, ou quelquefois je recycle, par exemple j'ai les fauteuils de ma mère, je les fais recouvrir. Les meubles, on les garde très longtemps, on vient de changer de canapé, mais on les avait depuis 30 ans, voilà, mais ce sont des grosses pièces, disons, dont on... voilà. Mais les journaux, tout ça, dont je n'ai... D'ailleurs, mon mari, quelquefois, me gronde, me dit, mais non, ne jette pas ça, j'y tiens, sinon je jette au fur et à mesure, oui.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marité, pour votre témoignage. Rémi Oudguiri, que dire à ceux qui considèrent les objets comme des vecteurs d'identité et qui ont du mal à s'en débarrasser, des vecteurs d'identité comme dans le célèbre roman de George Perec, Les Choses, ou plus récemment dans American Psycho de Bret Easton Ellis, où on voit que le consumérisme forcené du héros comble un vide intérieur. Comment s'y prennent ces gens qui ont du mal, voilà, à se débarrasser des objets parce que ce sont des vecteurs d'identité?
Exactement, c'est très sentimental en général ce qui se produit, c'est une façon d'être en fait, c'est leur souvenir, c'est leur histoire. Nous on a rencontré, on est allé voir les gens chez eux et c'est vrai que parfois ils étaient entassés des tas d'objets et on posait la question mais pourquoi vous gardez autant d'objets? Vous voyez bien que ça, en plus ce qui était frappant c'est que ça les empêchait de se déplacer facilement chez eux et en réalité ce qu'ils nous disaient c'était que c'était des pans entiers de leur histoire qui étaient là et qu'il était extrêmement compliqué pour eux de s'en débarrasser. Alors je ne sais pas s'il existe véritablement une solution. Ça, je pense que, je ne sais pas, il y a peut-être des réponses psychologiques ou des réponses liées à plus fonctionnelles. Mais le fait est qu'aujourd'hui, et ça ne va pas s'arranger dans les années qui viennent, c'est que les gens vivent dans des logements qui ne vont pas nécessairement grandir. Donc la tension, elle va être de plus en plus forte. Donc qu'est-ce qu'on garde? D'autant qu'on est dans une période où les repères sont de plus en plus brouillés, les choses s'accélèrent et les gens ont envie de garder quelque chose. Parce que la magie de Marie Kondo qui dit « bon, ne gardez que ce qui vous fait plaisir ou ce qui vous rend heureux », ça paraît magique dit comme ça, mais dans les faits, il y a tellement de choses qui potentiellement nous ont rendus, peuvent nous rendre heureux, que le dilemme dont vous avez parlé tout à l'heure est là chaque jour chez beaucoup de gens.
Est-ce que c'est une idée reçue, l'idée que les personnes déprimées sont plus bordéliques que la moyenne, Stéphane Ruzinec?
Non, les personnes déprimées ne sont pas plus bordéliques que la moyenne. Les personnes déprimées s'activent moins le matin pour faire le ménage et pour ranger. Ce qui fait que pendant des phases de déprime, en allant chez elles, on peut avoir l'impression qu'elles sont un peu plus bordéliques. Mais de manière générale, une personne déprimée n'est pas bordélique.
Elvira Petit, vous constatez que le bazar chez vos clients est une source de stress et de mal-être. Le désordre qui est tout de même une pollution visuelle et mentale.
Ah, c'est extrêmement anxiogène quand on arrive dans une pièce où parfois on ne respire pas. Moi, je respecte bien évidemment mes missions et mes clients, mais moi, il y a des appartements où je me suis sentie mal, vraiment mal. Il y avait trop de choses, il y avait trop de poussière, etc. Mais ce qui est très important, en fait, c'est de savoir où ranger les choses. Parce qu'on parle beaucoup de désencombrement, de tri, etc. Mais moi, ce que j'apprends aussi aux gens, c'est de savoir où mettre les choses. De manière à ce que, instinctivement, quand ils ont quelque chose dans la main, ils savent que ça va dans ce tiroir, etc., etc.
Carlo Gonzague.
Et qu'inversement, effectivement, si en faisant un peu l'exploration méthodique de leur intérieur, ils découvrent l'existence d'objets dont qu'ils avaient oubliés, c'est probablement qu'ils peuvent les jeter, ceux-là.
Absolument.
Il y a de grandes chances qu'ils soient inutiles.
Allez, dans quelques instants, on vous propose quelques clés fondamentales pour se désencombrer, mais il est déjà l'heure de retrouver la chronique pas son genre de Julia Foyce.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Un garçon, je suis une fille.
Il y a une femme là-dessous.
Non.
Alors, qu'est-ce que c'est?
C'est un homme.
T'as dit à tout le monde que t'es un garçon?
T'as menti?
Bah oui. Mais moi, j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et voilà.
Julia Foyce, dans Passons Jean cette semaine, vos vœux pour 2020.
Il vous concerne, Ali, comme il concerne spécifiquement nos auditeurs ce matin. Oui, vous qui, jusqu'en 2017, étiez relativement peinard. Il y avait bien eu quelques bouleversements par-ci par-là. Ces femmes qui se mettent à pouvoir travailler et toucher de l'argent sans demander l'autorisation de personne. Cet enfant, si je veux, quand je veux, ce corps dont je dispose. Et tiens, c'est rigolo, sur ce corps, il y a un petit truc tout nouveau. Un clitoris, dis donc. Non, il ne sert à rien pour faire des bébés. Mais avec qu'est-ce que je prends mon pied? Ça... À la rigueur, ça pouvait encore vous convenir. Disons que les plus valeureux d'entre vous ont appris à s'en servir, comme vous vous êtes accommodé du Pax et du mariage pour tous. Laisser de l'espace aux femmes et à un autre type d'homme, c'était jouable tant qu'on vous laissait la place du chef à table. Vous pouviez même la débarrasser de temps en temps. D'ailleurs, vous aimiez bien vu qu'à chaque fois, on vous applaudissait pour ça. Alors disons que jusque-là, tout restant bien rangé, bien genré, vous y trouviez à peu près votre compte. Sauf que voilà MeToo, sauf que voilà Balance ton porc, sauf que voilà des dizaines de milliers de femmes qui, après avoir serré les dents pendant des siècles, se mettent enfin à l'ouvrir. Et vous n'avez même pas le temps de commencer à les entendre, de percuter que vos mères, vos sœurs, vos filles ont déjà été, pour la moitié d'entre elles, minimum au moins une fois agressées, harcelées et ou violées, que vous entendez d'autres voix tenter de couvrir les leurs, des voix de basse, de baryton, de ténor, c'est grave car l'heure est grave, et ils vocifèrent et ils éructent, et toute l'élite de la pensée française défile pendant 2 ans au micro pour crier à l'émasculation généralisée, à la virilité démolie, à la séduction torpillée. Main dans la main, bouche en cœur, ils vous préviennent. Attention les gars, si vous laissez faire, c'est une horde d'innocents que vous verrez jeter en prison. C'est le retour du maccartisme, c'est la chasse aux sorcières. Tenez vos femmes, bordel! Alors, vous n'êtes pas sûr d'être forcément d'accord avec eux. Vous n'avez pas peur. Hein. Quand vous foutez en prison, vous savez faire la différence entre une femme qui dit oui et une autre qui dit non. Le distinguo entre une drague même lourde et une agression. Vous ne vous sentez ni menacé par une femme qui connaît son plaisir, ni bafoué par une autre qui rejette le vôtre. Certes, ça ne fait pas extrêmement plaisir, mais vous êtes ainsi fait que votre désir s'éteint quand il n'est pas partagé. Du coup, quand vous entendez dire qu'il faut comprendre les hommes, leurs besoins irrépressibles, leurs pulsions mal maîtrisées, ça ne vous parle vraiment pas. À la limite, vous pourriez vous sentir insulté qu'on ne vous accorde pas plus de maturité qu'un teckel en rut. Ouais, mais chut, vous vous taisez. Il y a chez vous, d'abord comme un réflexe de solidarité vitale, vous vous dites, ils ont des mots, ils ont le cerveau, ils représentent l'autorité masculine dans toute sa splendeur. Alors pour en être, pour avoir le droit de jouer dans la cour avec eux, vous vous taisez, d'autant plus facilement d'ailleurs, que vous êtes aussi de ceux qui n'ont pas peur de laisser les femmes parler. Depuis ce mois d'octobre 2017, vous avez même plutôt tendance à les écouter. Et pour ça, merci, parce que c'est rare et que c'est donc précieux. Sauf que, messieurs, ça ne suffit plus. C'est une guerre aussi sourde que violente qui se joue sous nos yeux. On est bien au-delà d'un débat de société. Il y a des tables à renverser, des murs à abattre et des mortes. Pour de vrai, une victime de féminicide tous les 2 jours en France, un viol toutes les 7 minutes. C'est une guerre, oui, avec des armes à peine voilées, des menaces, des appels au viol pour celles qui oseraient dire « ça suffit de cogner, ça suffit d'humilier, ça suffit de violer ». Sauf que... ça n'est pas une guerre des sexes, non, MeToo or not MeToo ne sépare pas les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Tout se joue entre ceux qui veulent que ça change et ceux à qui ça va très bien comme ça. On vient de vous tendre une belle perche. Hein. Un collectif d'hommes a signé cet automne une tribune dans Libé pour vous appeler à vous battre avec nous. Pas devant nous, pas au premier rang, pas à notre place, mais avec nous, à nos côtés. Parce que ce monde-là ne vous va plus, parce que vous ne tolérez plus qu'on y viole et qu'on y batte vos mères, vos sœurs, vos filles en toute impunité. Pour mémoire, 1% des viols seulement débouchent sur une condamnation. Ça vous révolte? Venez. Battez-vous, prenez position et s'il le faut, descendez dans la rue avec nous. C'est ça, être un homme du 21e siècle et c'est ça mon vœu pour la nouvelle année. Arrêtez d'avoir peur, faites-vous donc pousser une jolie paire de couilles, vous verrez, ça vous ira bien. En attendant, on peut vous prêter les nôtres si vous voulez.
La chronique passe son genre tous les jeudis dans Grand Main vous fasse. Vous pouvez réagir à cette chronique sur la page Facebook de Grand Main vous fasse et sur l'appli France Inter. Désencombré, rangé, oui mais par où commencer? La réponse dans quelques minutes. Nous attendons tous vos témoignages au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Céleste interprétée She's My Sunshine.
Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse, sur France Inter.
10h44, comment se débarrasser du superflu? C'est notre thème ce matin avec la complicité de l'Obs, avec le professeur en psychologie clinique Stéphane Ruzinec, la coach en rangement Elvira Petit et le journaliste de l'Obs Arnaud Gonzague, et avec nous également Rémy Houdguiry. Rémy Houdguiry, je rappelle que vous êtes sociologue et que vous avez procédé à une enquête consacrée au rangement et les Français. Est-ce qu'il y a une typologie des Français face au rangement? Les Français, d'après votre enquête, n'ont ni la même sensibilité au désordre, ni la même attitude face au changement.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il suffirait dans les appartements qu'on a visités ou les maisons, c'était très clair. Et on a fait donc une analyse qui nous a permis de déterminer 6 profils. Alors, il y a déjà ceux qui n'en ont rien à faire. Hein. Alors, Dieu merci, ils sont une minorité, mais c'est les bordéliques désinvestis, comme on les a appelés. Ce sont souvent des locataires, pas mal d'hommes aussi. Pour eux, finalement, c'est pas important que ce soit rangé ou pas. Ils ont d'autres priorités. Ils sortent énormément, donc c'est pas ça la priorité. Alors ensuite, il y a un groupe plus important, qui est même le plus important, 30% de la population, donc on va dire qu'on le retrouve assez souvent. Nous, on les a appelés les cools du rangement. Pourquoi cools du rangement? Parce qu'au fond, bon, un peu de désordre ne leur fait pas peur. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils rangent de temps en temps, notamment le week-end, et surtout quand ils reçoivent des gens chez eux. Parce qu'il y a une image sociale, évidemment, qui leur est renvoyée à travers le rangement. Donc il faut que ça soit rangé quand on vient chez soi. Alors ensuite, on a identifié aussi un groupe de ce qu'on a appelé les accumulateurs débordés, c'est-à-dire des gens qui ne cessent d'accumuler. Ils sont 16% en France. Eux, ce sont ceux qui ont vraiment du mal à jeter. Donc, au fil des années, ils entassent des tas d'objets et en fait, ils n'arrivent pas à faire le tri. Ils repoussent en permanence au lendemain la décision de le faire. Et donc, de plus en plus, ils se sentent mal parce qu'ils sont dans un logement où c'est très compliqué. Ça nous a fait penser au syndrome de Diogène. Vous savez, Diogène, le philosophe qui accumulait plein de choses et qui vivait dans énormément d'objets. Alors ensuite, on a un groupe d'habitués du joyeux bazar, comme on les appelle. Alors eux, ils vivent dans le bazar. En fait, ils passent leur temps à ranger, à remettre les choses en place, etc. C'est souvent des familles ou des enfants, en fait. Donc là, ils sont 11%. Donc eux, ils aimeraient bien pouvoir ranger, mais en fait, chaque jour, c'est une nouvelle odyssée. Il faut nettoyer, il faut ranger, parce que les enfants ont fait beaucoup de désordre. Alors ensuite, on a identifié ce qu'on a appelé les pros du rangement. Ils sont 17%. Alors, les pros du rangement, c'est les bons élèves. C'est eux, ils veulent pas perdre de temps, ils savent exactement où sont les choses, ils s'organisent en permanence, ils jettent dès qu'il faut jeter, ils nettoient dès qu'il faut nettoyer. Pour eux, le rangement, c'est une routine bien huilée, quotidienne, et qui, eux, au fond, c'est ceux qui n'ont pas besoin de Marie Kondo. Ils savent tout faire par eux-mêmes. Et puis enfin, on a les impliqués contrariés, 13% de la population française. Eux, c'est intéressant parce que c'est des gens qui ont du mal aussi à jeter pour des raisons sentimentales, souvent. Ils ont des objets auxquels ils tiennent. Mais en même temps, ça leur complique la vie. Donc eux, on les a appelés les impliqués contrariés parce qu'ils sentent bien que s'ils rangeaient chez eux, dans leur tête, ça irait mieux et ça serait mieux rangé. Et donc, il y a cet aspect psychologique dont vous avez parlé pendant l'émission qu'on retrouve très bien chez ces impliqués contrariés. Donc vous voyez qu'il y a 6 profils différents et 6, finalement, façons de vivre le désordre et le rangement.
Alors, à titre personnel, je me reconnais plutôt dans les pros du rangement. Et voir nos Gonzagues,
bordélique culpabilisé, ça existe.
Et vous, Stéphane Ruzinec?
Je pense que ce serait bordélique culpabilisé aussi.
Est-ce que vous êtes bordélique, vous, tiens, Elvira Petit?
Pas du tout, au contraire.
On ne sait pas.
Je suis extrêmement maniaque et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier. Donc dans ma vie personnelle, c'est un petit peu handicapant, mais dans ma vie professionnelle, ça me sert.
Est-ce que cette typologie évoquée par Rémy Houdguiry vous paraît conforme à votre expérience professionnelle?
Oui, absolument. Absolument.
Parmi les personnes qui s'encombrent, il y a la vaste tribu des Okazous. Qu'est-ce que vous dites aux membres de cette nombreuse tribu Okazous? Ça peut servir.
Alors, au cas où ça peut servir, moi, c'est deux phrases que je déteste entendre, en tout cas. Et je leur dis, au cas où quoi? Et là, en général, j'ai un grand blanc et on me dit, au cas où rien. Et là, on se permet de se débarrasser de l'article.
On revient à notre question du début, Stéphane Ruzinec, avec cette question du au cas où.
Bah oui, le au cas où, et franchement, enfin, ça permet de gérer l'anxiété et... C'est très important pour nous. Moi, j'aimerais revenir juste sur une petite chose. Je disais, oui, moi, je serais plutôt un bordélique culpabilisé. Mais ce qui a été dit là dans l'étude et ce qui est rapporté, il y a aussi la question, c'est les autres autour de nous. Parce que les autres vont nous influencer énormément sur la façon dont on range. Je vais prendre mon exemple, bordélique culpabilisé, oui. Mais j'ai une fille qui vit avec moi qui, elle, range tout le temps. Donc, en fait, personne ne voit que je suis bordélique. C'est parce que elle va ranger tout le temps. Et je peux croire aussi que ça va aussi dans le sens inverse, où quelqu'un pourrait vouloir tout le temps ranger. Mais quand on a plein d'enfants, c'est parfois très difficile. Et on accumule parce que les enfants sont encore plus anxieux que les adultes, ont encore plus de mal à jeter, se disent toujours, bah, ce jouet, au cas où, je vais jouer avec peut-être dans 10 ans. Et il va peut-être me faire plaisir. Et c'est là aussi, les autres nous amènent à avoir des comportements de rangement aussi.
Bonjour Juliette, bienvenue.
Bonjour.
Alors, vous avez dû ranger la maison de vos parents.
Alors, j'ai pas dû, puisque ça a été un énorme plaisir.
Ah. Personnellement, Juliette.
Oui, je me retrouve vraiment dans les propos d'Elvira. Personnellement, j'adore ranger. C'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup de sérénité, on va dire. Et ça, c'est depuis que je suis enfant. Et au-delà de ranger, c'est vraiment aussi réorganiser les meubles pour que, en fait, on circule dans l'espace. Enfin, j'ai toujours été vraiment très sensible à l'espace. Enfant, j'ai très souvent réorganisé ma chambre en fonction des impératifs que j'avais. Par exemple, quand je passais en prépa, etc., pour mettre le bureau plus en avant, mettre en valeur, en fait, ce qui était le plus important dans ma vie à ce moment-là. Et le truc, c'est que je vis avec un papa extrêmement bordélique depuis des années, qui lui avait tendance à juste poser. En fait, pour lui, ranger, c'est poser et c'est étaler. Mmh. Et donc, du coup, dans la famille, il y a une petite blague, c'est qu'au fur et à mesure, on lui laisse de plus en plus d'espace et de placards pour qu'il range, mais le truc, c'est que plus on lui donne d'espace, plus il va s'étaler. Et donc là, maintenant qu'ils sont passés à la retraite, et mon frère et moi sommes partis depuis déjà une petite dizaine d'années de la maison, qu'ensuite on a récupéré les affaires des générations d'avant qui sont disparues, c'est vrai que la maison était devenue tout simplement un entrepôt. Plus rien ne faisait sens et moi ça me hérissait le poil. Alors j'ai profité des vacances de Noël pour faire un cadeau avant tout à moi, mais aussi à mes parents pour leur nouvelle période de vie qu'est la retraite. Et nous avons fait Marie Kondo dans toute la maison. Donc voilà, on a tout rangé, ça nous a pris une semaine. Pour le coup, vous avez commencé l'émission en parlant d'autorité. Moi, j'ai justement attendu d'avoir 32 ans pour oser affronter mon père et ses réticences.
Arnaud Gonzalez.
Moi, je suis pas psychologue, donc je vais pas faire de la psychologie, mais enfin, ranger chez ses parents, c'est intéressant, hein, il y a quelque chose. Non, c'est un cas souvent qu'on voit, qu'on entend. Là, effectivement, c'est un rangement volontaire et
positif.
Et sympa et positif, mais souvent, quand ses parents décèdent, il faut affronter la maison. Alors là, le bordel, il a un sens extraordinairement douloureux, souvent. Il y a même des livres qui ont été écrits là-dessus. Et c'est intéressant, c'est que là, nous, on pose toujours la question de, mais vous, quand vous êtes dans ceux qui sont déjà d'un certain âge et que vous allez léguer à vos enfants, à vos petits-enfants, souvent, il y a cette idée qu'on va léguer des choses, c'est quand même bien qu'ils transmettent, puis ils feront un peu le tri. Mais en fait, de fait, vous léguez le bordel aussi. Et ça, c'est quelque chose qui doit interroger, parce que finalement, vous faites travailler les autres sur votre propre désordre.
Merci beaucoup, Juliette, de nous avoir appelé. Elvira Petit, faut-il ranger quotidiennement? Vous préconisez dans votre livre de ranger quelques minutes par jour pour ne pas consacrer tout son week-end à ranger et à désencombrer.
Tout à fait. Il faut instaurer une petite routine de rangement, c'est-à-dire que vos vêtements qui sont sales, vous les mettez aux sales. Vous les empilez pas sur la chaise dans la chambre. Vos affaires de travail, vous les classez. Vos documents entrants, vous les rangez. Votre vaisselle qui est sèche, vous la rangez. De manière à ne pas passer votre week-end à ne faire que du rangement et que du ménage.
Quel est le secret d'un rangement réussi ?
De savoir où ranger les choses. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. Parce qu'en fait, le fait de ranger et correctement les choses va vous faire gagner de l'argent. Un exemple tout simple. Vous achetez des piles. Un paquet de piles, ça vaut 10 euros. Vous allez les mettre dans un tiroir dans la cuisine. Et vous ne saurez pas où elles sont. Vous allez encore en racheter et en racheter. Et au final, des fois, quand je range avec mes clientes, on retrouve 50 ou 60 piles. Alors qu'il y en avait.
Arnaud Gonzague.
Oui, non, c'est intéressant. Finalement, le coup de la pile. On a tous un coin comme ça dans notre appartement qui est le rangement fourre-tout. Il y a des clés qu'on n'utilise plus parce qu'on a perdu le vélo il y a longtemps. Il y a des tickets de cinéma usagés. Il y a des piles évidemment dont on ne sait absolument jamais si elles sont vides ou pleines.
Les bitonios qui servent à rien mais qui peuvent toujours servir.
Et puis un bouton au cas où une chemise.
Les câbles aussi.
Les boîtes de câbles et les sacs de sacs. Les sacs de sacs, oui.
Ça c'est
merveilleux.
Alors de nombreux auditeurs nous disent, ils sont très nombreux à nous écrire, ils ont du mal à se séparer des livres. Comment on procède, Elvira Petit? C'est extrêmement compliqué. Ça a une charge sentimentale énorme, un livre.
Alors, c'est effectivement la chose la plus compliquée, avec les photos. Donc moi, ce que je conseille aux gens, c'est donc déjà d'en faire profiter d'autres personnes, de faire un tri. Bon, entre un très beau livre qui raconte plein de choses et puis un petit livre de poche acheté sur la plage, peut-être qu'il y aura moins d'affect sur le livre de poche que sur le magnifique livre.
Mais non, mais si c'est L'étranger de Camus en poche que j'achète à la librairie,
c'est
le beau livre dont on se débarrasse d'abord, parce qu'en fait c'est un truc qu'on nous a offert à Noël et en fait toujours à l'histoire du vin depuis le Moyen Âge, m'en fous en fait. Et c'est souvent le petit Camus, le petit voilà qu'on a, qui a une vraie charge émotionnelle quoi.
Moi j'ai beaucoup de mal à me débarrasser des poches que j'ai achetées depuis que je suis adolescent. C'est quasiment impossible. Moi j'ai du mal, énormément de mal à me séparer des livres. Alors ce que je fais, c'est que je fais des tri réguliers et j'en donne à Recyclivre, notamment, qui est une association bénévole qui récupère vos livres et qui après les revend à des buts humanitaires. Comment vous procédez-vous pour avez raconté hors antenne que vous êtes séparé de centaines de BD.
Une centaine de BD, peut-être pas, mais enfin, en tout cas, beaucoup. Il se trouve que moi, je collectionne les BD beaucoup, j'adore les BD, et j'en ai depuis l'enfance. Et donc, évidemment, la BD, c'est un rapport à l'enfance. Et en plus, moi, j'ai 3 enfants. Donc, c'est un rapport de transmission de son enfance, de ce qu'on aimait dans son enfance, à ses enfants. Vous imaginez un peu la charge émotionnelle qu'il y a derrière tout ça. Et il se trouve que j'ai déménagé, j'étais dans une grande maison jusqu'à l'été, et je suis maintenant en appartement beaucoup plus étroit. Donc, j'ai été contraint et forcé de me débarrasser de plein de BD. Ça vous oblige à savoir ce que vous mettez derrière vous, de votre enfance, de votre adolescence, un certain type d'humour, un certain type d'aventure, un certain type de choses, et de choses que finalement vous n'allez pas faire passer à vos enfants. C'est un petit truc psy intéressant, quoi.
Stéphane Rozinek.
Et alors, mais là c'est que du témoignage personnel, encore une fois. Moi, mes livres, je ne m'en débarrasse pas. C'est quelque chose de beaucoup trop important pour moi. Un livre, quand j'ai un livre, je le garde, que ce soit un beau, un
proche. Et vous le mettez où quand il n'y a plus de place?
Dans des cartons, et j'empile les cartons, et je vais acheter une maison pour mettre des cartons dedans, et j'habiterai ailleurs. Voilà, mais les livres, c'est vrai que c'est très difficile pour moi, je ne peux pas me séparer d'un livre, d'autant plus quand je l'ai lu.
Rémi Hautguéry, vous avez du mal, vous, à vous séparer des centaines, des milliers de livres que vous avez chez vous?
Oui, je suis comme vos invités. Moi, j'aime bien l'idée des bibliothèques qu'on trouve un peu partout dans les rues maintenant, et où on peut déposer des livres ou en prendre, en fait. Je trouve que c'est une belle façon de donner une seconde vie aux livres. Donc, voilà, je ne suis pas toujours fidèle à ça, mais je trouve que c'est une belle idée.
Laurence nous donne une méthode de rangement. J'ai pratiqué tout le mois de décembre. J'ai pratiqué un calendrier de l'Avent à l'envers. Le principe, chaque jour, se séparer, donner, amener à la ressourcerie, faire un cadeau, jeter des périmés d'un objet, d'un vêtement, d'une plante.
Impeccable.
Elvira Petit.
C'est très bien.
C'est pas mal. Arnaud Gonzague, notre cerveau, on va terminer par cette question-là, est programmé pour accumuler les objets. Mais, vous dit Sébastien Boller, spécialiste en neurosciences dans l'Obs, il est possible d'éduquer ce cerveau qui est programmé pour accumuler.
Mais oui, parce que notre cerveau est un organe très plastique. Donc, effectivement, notre cerveau, il est programmé pour nous récompenser. Donc, nous récompenser, c'est-à-dire sécréter de la dopamine. Il y a une partie de notre cerveau qui s'appelle le striatum qui sécrète de la dopamine. Et voilà, c'est le plaisir quand vous mangez un bon plat, quand vous faites l'amour et quand vous achetez des objets qui vous valorisent socialement. La question de la récompense, c'est surtout qu'est-ce qui vous récompense socialement. Et Sébastien Boller, le neuroscientifique, rencontre de plusieurs études qui montrent que, par exemple, les femmes, quand elles, dans certaines expériences de psychologie sociale, donnent de l'argent, ça leur donne un certain plaisir, alors que chez les hommes, il y a quelque chose, le plaisir vient plutôt de l'égoïsme. A priori, il n'y a pas c'est pas génétique, hein. A priori, c'est bien un travail social qui a été fait, c'est-à-dire qu'on a éduqué les petites filles à être gentilles, entre guillemets, avec les autres, à se préoccuper des autres, et c'est ce qui les valorise socialement. Et les garçons, à être forts, à défendre leur bout de gras, comme on dit. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'on pourrait tout à fait construire une société dans laquelle la frugalité, le partage, la bienveillance, les valeurs sont avant l'accumulation des objets. Voilà.
Elvira Petit, un mot de conclusion pour ceux qui ont peut-être envie, là, en ce début d'année, envie de désencombrer leur intérieur. C'est peut-être repenser, comme le disait Arnaud Gonzague, globalement notre rapport à la consommation.
Oui, et surtout, respectez-vous. Ne vous mettez pas la pression. Travaillez sur des petits espaces ou sur des petites tâches. Faites ce que vous pouvez.
C'est la stratégie du salami, hein, c'est ça?
Voilà.
En petite tranche, on fait des...
Voilà, faites les choses tranquillement. Même si vous y mettez un an, faites les choses tranquillement pour bien le vivre. C'est très important. Et pour ceux qui veulent vraiment en finir, dites-vous que si vous aviez 2 heures pour quitter votre maison, qu'est-ce que vous emporteriez vraiment avec vous? Pas forcément grand-chose.
Stéphane Rozinek, ça fait vraiment du bien de désencombrer, de ranger.
Oui, ça va faire du bien psychologiquement de toute façon. de se fixer un but et de réaliser une tâche et de voir l'accomplissement de cette tâche, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Au niveau psychologique, donc oui, ça peut faire du bien.
Merci beaucoup Arnaud Gonzague. Le dossier de l'Obs, se débarrasser de l'inutile, est disponible en kiosque et en version numérique, évidemment. Merci Elvira Petit. Le rangement, c'est maintenant, c'est publié chez Vigo. Merci Rémi Audiguiri et merci Stéphane Ruzinec. Demain, on se demande comment Camus, Albert, hein, par Renaud Camus, peut changer votre vie. Ce sera avec le réalisateur Fabrice Gardel et avec la professeure de philosophie Marilyn Maezo. À la technique ce matin, Elisabeth Collet et Arnaud Caillé. Encore une fois, je vous souhaite une très belle année à l'écoute de France Inter.